avec Hélène Denis.
Le 12 du 2 2026, j'espère que vous allez bien en ce jeudi doux. Vous avez marché, Mathieu, comme d'habitude?
Oui.
Ouais, longtemps?
Un chiffre pair, ouais. comme aujourd'hui.
Dans les parcs, la neige est belle, mais dans les rues, ouais. Oh, ça fait dur. C'est de la slush, hein? C'est brun, brun, brun. Mais on se plaindra pas. Non. Quand même, parce que cette douceur fait du bien, je trouve. Il faut s'habiller quand même, là. Et qu'est-ce qui fait du bien, c'est de savoir qu'ils sont au bout du fil. Je parle d'Yvan Deslauriers et de Monique Kerouac. Bonjour à vous deux.
Bonjour, Hélène.
Bonjour, Hélène.
Est-ce que vous savez, Monique et Yvan, que c'est la journée « J'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise ». C'est la deuxième édition, le 12 février. On fait ça.
Mm-hmm. Oui, on sait ça.
Oui,
est-ce que vous l'avez déjà fait? Pardon?
Marie Lalande s'assure que je le sache.
Oui, Marie Lalande, qui est votre conjointe.
Oui.
Et
oui.
Une animatrice à Canal M.
Bon. Oui.
Est-ce parce qu'il y a toujours des nouveaux auditeurs qui s'ajoutent? Alors, quand vous dites Marie Lalande, on se dit, qui est-elle? Mais on commence à la connaître. Alors, 12 février, oui, peut-être que vous avez déjà acheté le billet, peut-être que vous allez en acheter un aujourd'hui ou peut-être que vous allez passer tout droit. Comment vous allez agir en cette journée particulière? Monique, d'abord.
Ben, écoutez, j'ai l'intention d'acheter un billet pour un spectacle de danse qui a lieu à la salle Maurice Aubrady à Sherbrooke.
Ah oui?
Et c'est B-Boyzim. Alors, c'est du street dance, c'est de la danse, je sais pas comment la qualifier, là.
De rue?
De rue, c'est ça. Ça s'intitule « In My Body ». Donc, j'irai voir ce spectacle probablement le 17 février.
Ah oui, ben vous m'épatez, vous m'étonnez, Monique. Je ne savais pas que vous aimiez ce genre de danse. Vous aimez la danse en général?
Ben j'aime la danse contemporaine. Oui, j'aime beaucoup la danse contemporaine. Et donc, dans la région, on a la chance, à certains moments, d'avoir des spectacles qui ont été présentés dans le cadre de Danse-Danse à Montréal. Et parfois, il y en a d'autres qui se rajoutent. C'en est un de ceux-là. Alors, quand on prend un abonnement, c'est intéressant de découvrir des choses. Et il faut dire, Hélène, que c'est ma première sortie depuis 7 mois.
Oh, vous allez encore plus l'apprécier, hein? Vous qui
oui.
Étiez très, très tranquille aux portes, là, étant donné votre condition de santé.
C'est ça, exactement. Mon système immunitaire étant un peu défaillant.
Alors, dans 5 jours, ça va se passer avec votre chérie, j'imagine?
Ben oui.
Évidemment. Et vous, Yvan, vous me disiez en dehors des ondes là, que c'était déjà fait. Là. Vous attendiez pas le 12 février. Comme il y en a qui attendent pas le 14 février pour acheter du chocolat à sa douce ou à son doux.
Oui, d'ailleurs, il me semble que le prix du cacao a baissé aussi. Là. Je ne sais pas s'il y a
Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, on dit le contraire. L'inflation fait grimper le prix de vos chocolats. Ouais.
Bon. Puis moi, je ne les ai pas achetés. Enfin, pour ce qui est des sorties culturelles, oui, on a 2 sorties. Puis une chance que Marie s'est mise sur l'ordinateur assez tôt ce matin parce que les billets s'envolaient.
Ah oui?
Alors,
pour quel spectacle?
Nous, on va aller voir l'architecture de la joie. C'est une lecture publique qui va avoir lieu au mois de, je pense, c'est mai ou juin, je ne suis pas certain. Ça a été un livre de Anaïs Barbeau-Lavalette et de Steve Gagnon qui se sont échangés des correspondances sur le thème de la joie. Parce que Steve Gagnon, semblerait-il, n'est pas quelqu'un de particulièrement joyeux dans la vie. Et Anaïs Barbeau-Lavalette, oui. Alors, c'est sur ce thème-là qu'ils ont échangé des correspondances. Et l'autre spectacle... C'est au mois de juin, j'ai oublié, non, mon Dieu, c'est un de nos chouchous.
Patrice Michaud.
Non, oui, ça, c'est un de nos chouchous, certains. Oui, vous savez qui sont nos chouchous, vous. C'est Étienne Copé qui donne un spectacle qui
hommage à Joe Dassin.
C'est le 14 juin. Et ça, c'est les billets qui s'envolent vraiment beaucoup. Là. Ouais. Ça va vite.
Oui, je pense que sa première médiatique, c'était la semaine dernière et il a connu énormément de succès. Son album connaît aussi du succès et il sera en spectacle le 14 juin, comme vous le dites si bien, dans le cadre des Franco. Alors, ce sont des belles sorties qui vous attendent, Monique et Yvan. Et vous, chère Mathieu?
Il y a un spectacle qui m'intéresse beaucoup, c'est L'univers audacieux de Jean de Rome, qui est ce soir à la 5e salle. Je ne sais pas si je vais y aller, mais peut-être que oui.
Ah oui, Jean de Rome, rappelez-nous.
C'est un saxophoniste, musique contemporaine, jazz, qui a déjà, que j'ai croisé une fois dans le métro, qui jouait du saxophone. Personne ne le reconnaissait.
Il a déjà été un musicien dans le métro.
Non, en fait, ça fait pas très longtemps. En fait. Ben, je dirais une dizaine d'années. Il est déjà très établi dans le milieu. Mais lui, c'était un de ses plaisirs de jouer anonymement dans le métro. Ah. Et c'était très bon.
Et saviez-vous, mesdames et messieurs, que notre Mathieu National a déjà présenté des spectacles? Vous me disiez ça ce matin parce qu'on va faire, on va diffuser une chanson de Vanille. Vanille qui participe au Tavern Tour qui prend son envol aujourd'hui. Il y a plein de spectacles dans plusieurs salles du plateau Mont-Royal et dont l'Escogriffe. Vanille sera à l'Escogriffe ce soir à 21h30 et vous me disiez, Mathieu, que vous aviez déjà participé dans un groupe avec votre frère.
Oui, mon frère avait un groupe qui s'appelait Royal Opéra. Et j'ai fait plusieurs spectacles, dont une fois à l'Escogriffe.
Royal Opéra.
Royal Opéra.
C'était quel genre de musique?
C'était de la musique alternative, rock.
Ah oui, j'aurais aimé savoir ça. Est-ce qu'il va y avoir des supplémentaires?
Ça fait longtemps.
Mais moi, j'ai acheté un billet, mais ça fait quand même un petit peu dans le cadre de j'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise, là, pour aller voir Macbeth. De Robert Lepage. Ben, c'est Macbeth de Shakespeare, là, mais mise en scène par Robert Lepage. Je sais qu'Yvan, vous l'avez vu, vous avez plus ou moins aimé. Votre conjointe Marie a adoré. Les critiques sont vraiment mitigées. Hein? On aime ou on n'aime pas, ou on est entre
les
deux.
Oui, c'est dans tous les sens.
Oui. Mm-hmm. Mais moi, j'ai bien hâte. Tout ce que fait Robert Lepage, habituellement, il y a toujours quelque chose d'assez fascinant dans une création signée Robert Lepage. Bon, on parle. Allons-y avec une chanson, puis tout de suite après, on va continuer avec les unes. Mais avant, il faut présenter le menu de l'émission. Yvan, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui?
Moi, je vais vous parler de réflexion qu'une aventurière que moi, je connais un peu, qui s'appelle Annabelle Gay, a fait à partir d'un trek qu'elle a fait sur le Mont Blanc. Et elle fait une ode aux femmes des montagnes. Alors, je voulais vous partager un peu ses réflexions.
Alors, on sera à l'écoute. Monique, vous nous invitez, vous, à manger des insectes.
Est-ce que vous seriez prête, Hélène, à manger des insectes?
J'en ai déjà mangé dans le cadre d'une autre émission de radio. Il y a belle lurette. C'était, je pense, des sauterelles dans le chocolat.
Puis?
Bof. Ben, ça croquait. J'avais pas eu ça. Ça goûtait plus le chocolat que l'insecte.
Ben, c'est peut-être ce qu'il faut.
Oui.
Mais en tout cas, on doit y penser parce que si on est soucieux de notre empreinte environnementale relativement à notre alimentation, ben peut-être que on pourrait être encouragé et stimulé à inclure dans notre alimentation des nouvelles sources de protéines. Bon, il y a deux nutritionnistes et chercheuses de l'Université de Montréal qui s'y sont intéressées à cette nouvelle réalité et ben elles nous présentent les différents aspects à considérer quant à ce choix alimentaire.
Merci, chère Monique. Dominique Tremblay sera là pour les parasports et on aura aussi la visite de Simon Rousseau, qui est arbitre en chef et directeur artistique à la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. Il enseigne même l'improvisation au Conservatoire de Montréal. J'ai bien hâte de le rencontrer pour lui parler de la saison de la Coupe Charade qui prend son envol le 15 février.
Mm-hmm.
La chanson « Rends-moi ma vie » de Flora Fischbach.
À la une du Devoir, un patient, deux fois les coûts pour l'État. Le modèle d'entente avec les médecins de famille privilégié par le gouvernement de François Legault revient deux fois plus cher et est moins personnalisé, révèle une lettre obtenue par le Devoir. C'est un texte de Marie-Michèle Sioui, qui est correspondante parlementaire à Québec. 22 % c'est le pourcentage de patients qui n'ont pas de médecin de famille attitré, qui n'ont jamais mis les pieds dans leur GMF, groupe de médecine de famille. Tuerie de Tumbler Ridge, l'identité de la tireuse révélée. La Gendarmerie royale du Canada a révélé l'identité de la personne qui a ouvert le feu mardi à Tumbler Ridge, faisant 8 victimes et semant la consternation dans cette petite communauté de la Colombie-Britannique. Il s'agit de Jesse Van Rotselaar. Elle a 18 ans. C'est une femme trans dont les motivations demeurent inconnues pour l'instant. Lors d'une mise à jour très attendue de la police fédérale sur cette tuerie, il a été précisé mercredi que 7 personnes ont été retrouvées sans vie dans l'école secondaire de Tumbler Ridge, en plus du corps de la suspecte. Ceux d'une enseignante de 39 ans et de 5 élèves âgés de 12 et 13 ans y ont été découverts. La police a aussi confirmé que les deux victimes retrouvées dans une résidence privée de la localité étaient la mère et le demi-frère de 11 ans de la tireuse. Autre titre à la une du Devoir, les drones font bourdonner les jeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La technologie est partout à Milan-Cortina, fournissant des images vertigineuses, mais créant aussi un bruit incessant. Certaines personnes aiment bien et d'autres beaucoup moins. Folie meurtrière, il en est question aussi à la une du Journal de Montréal, avec la photo de la responsable de l'une des pires tragédies du Canada. Et c'est à la une aussi de la presse plus d'aujourd'hui, douleur et stupeur à Tumbler Ridge, petite communauté où tout le monde connaît son voisin. L'incompréhension était sur tous les visages lors d'une veillée à la bougie au lendemain de la tuerie qui a secoué le pays entier. Et on va se sortir un peu de ce marasme, de cette grande tristesse avec les Olympiques Milan-Cortina 2026, patinage artistique. On nage sur un nuage. La Montréalaise Laurence Fournier-Baudry décroche l'or pour la France. Les Canadiens Piper Gillis et Paul Poirier gagnent le bronze. Et ce matin, il y a Michael Kingsbury qui remporte l'argent. Il a failli remporter l'or. Et Elliott Grondin s'offre la médaille d'argent en snowboard cross. Le temps file, Yvan. À vous la parole.
Ben oui, le temps file. C'est pas spécial. Donc, je vais vous parler de Annabelle Guy, qui est une aventurière, une conférencière et une doctorante en psychologie du travail et des organisations. Pour situer les gens, Annabelle Guy, c'est une jeune fille qui a un sourire radieux. J'imagine que cette personne-là, quand elle sourit pas, tout le monde autour d'elle s'inquiète parce qu'elle a toujours un sourire au visage. Elle est l'instigatrice d'un projet qui s'appelle La Grande Traversée, qui était en 2023, je crois, qui consistait à faire du vélo, de la marche et de la rame. Jusque-là, ça a l'air un peu simple, mais c'est de Sherbrooke aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'était vraiment un très, très grand parcours. Et son idée, l'idée qu'elle cherche à proposer, c'est que elle invite un grand nombre de gens à croire en leurs ambitions sans se laisser définir par le regard d'autrui. Parce que Annabelle, elle n'a pas le physique d'une athlète. Elle est un peu comme vous et moi. Et c'est ce qui la rend, pour moi, très sympathique et qui me permet de penser que je peux atteindre des objectifs intéressants parce qu'elle, elle le fait. Alors, je vous raconte un peu ces réflexions, ces pensées qui nous viennent en direct du Mont Blanc. C'est dans un article que j'ai trouvé dans Urbania le 4 février. Et elle fait l'ode aux femmes des montagnes qui l'ont précédée et qui lui ont permis de penser que ça aussi, c'était un projet qui était accessible pour elle. Alors, elle dit « Oser gravir le Mont Blanc par la voie des trois monts, c'était comme se lancer dans le vide. Après avoir traversé le Québec en solitaire, à vélo, à pied et à bord de mon bateau à rame océanique, j'avais réussi à toucher quelque chose de nouveau. Soit cette petite partie de moi qui refusait l'abandon, qui avait le droit de croire en tous les possibles. Longtemps, j'ai cru que le sport et le plein air étaient réservés à ceux qui avancent vite, qui franchissent les lignes d'arrivée en premier, qui sont taillés physiquement pour la performance. Puis, j'ai réalisé que la performance ne se mesure pas avec un chrono. » Et là, je fais une petite parenthèse sur son site Internet. Son père est quelqu'un qui fait encore beaucoup de projets de ce genre-là. Et il dit « Slow pace wins the race ». Un rythme lent nous permet de se rendre au bout, si je traduis de façon tout à fait libre. Donc, il ne faut pas toujours se fier au chrono et aux victoires. Une fois passé ces a priori, l'ascension du Mont Blanc m'est apparue comme une évidence, une suite logique. Une nouvelle expédition qui m'amènerait encore une fois à aiguiser mes capacités d'adaptation et à nourrir ma conviction voulant que le monde du sport et de l'aventure appartienne à tous ceux qui osent y poser le pied. Gravir le toit de l'Europe, c'est le surnom qu'on donne au Mont Blanc, revêtait une signification particulière pour moi. J'allais suivre les traces de celles qui avaient osé, bien avant moi, défier l'altitude et les attentes. Alors, on se retrouve il y a moins d'un an, le 29 juin 2025, à 4 heures du matin. Et elle nous dit « Je suis en pleine ascension du Mont Blanc, à plus de 4000 mètres d'altitude. Le froid me brûle la peau. J'ai le souffle court. Je suis complètement déshydraté. » Encordé avec mon guide, le silence des montagnes amplifie le doute et la peur, mais aussi le courage. Je me demande si je serai capable d'atteindre le premier sommet, le mont du Tacu, ou Tacul, T-A-C-U-L, puis le deuxième, le mont Maudit, et enfin le dernier, le mont Blanc. Je sais que l'histoire de l'alpinisme s'est majoritairement écrite au masculin. On parlait de conquête, de premières ascensions, de courage viril face à la montagne. Pourtant, dès le 19e siècle, des femmes se sont frayées un chemin malgré les jugements et moqueries. En 1808, Marie Paradis, parenthèse de ma part, quel beau nom pour faire ce genre de choses, Marie Paradis devient la première femme à atteindre le sommet du Mont Blanc. On a longtemps dit qu'elle y avait été, en guillemets, tirée par ses compagnons, comme si l'idée qu'une femme puisse y parvenir par elle-même était impensable. Un demi-siècle plus tard, c'est Henriette d'Angeville qui complète seule la même ascension afin de pleinement revendiquer son exploit. Elle portait d'ailleurs une robe et un corset sous son manteau d'alpiniste, symbole d'une époque qui ne croyait pas qu'une femme puisse être là-haut par choix et par passion. Depuis, plusieurs autres leur ont emboîté le pas. Des femmes comme Lydia Bradley, première à gravir l'Everest sans oxygène, ou Catherine d'Estivelle, figure incontournable de la grimpe libre et de l'alpinisme. Toutes ont repoussé les frontières du possible, tant pour les femmes que pour l'aventure humaine. En posant mes crampons sur la neige du Mont Blanc, je pense à elles et à toutes celles qui ont osé lever les yeux vers des sommets qu'on leur disait interdits. À toutes celles qui, dans le plein air, en mer, sur les sentiers ou en montagne, ont su prendre leur place sans avoir besoin de crier qu'elles la méritent. Bien sûr, je sais que les femmes ne font pas nécessairement des activités de plein air pour prouver qu'elles sont fortes. Elles le font simplement, silencieusement depuis toujours. Elles incarnent une force différente, intuitive, connectée à la nature plus qu'à la grande conquête. Elles ne montent peut-être pas pour vaincre la montagne, mais pour s'y connecter, pour sentir que la beauté du monde appartient à toutes celles qui osent et qui rêvent. Je me souviendrai longtemps de cette ascension d'une durée de 15 heures, des couleurs spectaculaires du lever du soleil, des crevasses immenses, des séracs qui menacent de tomber à tout moment et des pentes si abruptes que mes crampons peinaient à s'y agripper. Mais au-delà de la montagne, c'est l'ampleur du chemin parcouru qui résonne toujours en moi. Du moment où j'ai posé seul les pieds à l'aéroport, jusqu'à celui où je suis revenu au Québec, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer avec elle. Les rencontres que j'ai faites en chemin m'ont aussi beaucoup appris. Ces quelques femmes dont j'ai croisé le regard, comme un rappel silencieux que nous aussi, nous avons notre place ici, entre ce que les femmes ont déjà conquis et tout ce qu'il reste encore à bâtir. Alors, c'est le texte de Annabelle Gué, publié le 4 février, donc ça fait vraiment pas longtemps, ça fait 10 jours, une dizaine de jours, que j'ai trouvé sur le site Urbania, quelques pensées en direct du Mont-Blanc. Une belle réflexion sur la place des femmes dans l'activité physique, dans l'activité d'aventure. Et je ne sais pas, Hélène, si vous avez eu la chance de voir des photos de Mme Gué, de Annabelle Gué. Elle est resplendissante. Son
tout
sourire est vraiment fantastique.
C'est vrai. Beau choix de texte, Yvan. C'est comme une sorte de déclaration d'amour aux femmes, ça, à l'approche de la Saint-Valentin.
À l'approche de la Saint-Valentin, puis à l'approche aussi de la journée de la femme, je pense. Je me souviens pas, c'est au mois de mars, ça?
Ah, je sais pas.
Le 8 mars.
Ah oui, OK. J'avais le salon des femmes dans la tête. Le salon de la femme, mais c'est la journée des femmes. OK. Oui, alors, oui, on y va avec une pièce qui s'intitule Love, tout simplement. La pièce s'intitule « Love » et c'est Sofiane Pamart, le compositeur-pianiste qu'on écoutait.
Vous pouvez...
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Laughed at me when I called it marijuana. Everything I see now ends in a comma. Can't believe you might wanna stick around. Turning the dial in search of a station. The last 2 years just one long staycation. I'm not cashing the check that I got from the nation. If it just tests my patience, I'm just staying in.
Understand what you see in him. Can't possibly be both master and minion. Just one of 1 million. All just the same. Yes, it's true, I'm the alumni. I'm grown from the dirt of some flyover fungi. Don't have to be rich to finance the Hyundai. I designed my own sun guy, all on my own, all on my
La chanson Sona de Bahamas, j'aime beaucoup.
Oui, il n'est pas né aux Bahamas, mais au Canada. Alors, allons-y avec Monique maintenant. Monique Kerouac, manger des insectes, solution d'avenir ou fausse bonne idée, Monique?
Eh bien, selon Nina Kliouéva, qui est étudiante à la maîtrise et aussi diététiste, ne l'oublions pas, et Maude Perrault, qui est professeure adjointe également en nutrition et diététiste de l'Université de Montréal, eh bien, il faut considérer. Alors, face à une demande mondiale en protéines qui explose et à l'impact environnemental grandissant de l'élevage animal, les insectes s'imposent comme une solution séduisante, riche en nutriments, peu gourmand
en ressources déjà testées par chercheurs, entreprises et chefs. Mais derrière cet engouement, il y a une question qui demeure. Représente-t-il vraiment une solution durable et sécuritaire pour nourrir la planète? Aujourd'hui, la production mondiale de viande exerce une pression croissante sur les ressources naturelles. Elle nécessite d'importantes surfaces agricoles, génère des émissions massives de gaz à effet de serre et contribue à la déforestation. En effet, la production de viande représente près de 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Elle occupe environ 80% des terres agricoles et consomme des quantités importantes d'eau et de nourriture pour le bétail. Or, les protéines demeurent indispensables à la santé humaine. On en a parlé, n'est-ce pas, Hélène, la semaine dernière?
Absolument.
Et ce qui oblige donc à trouver des sources alternatives plus durables. Alors, dans ce contexte, les insectes apparaissent comme une piste de diversification des sources protéiques. Leur élevage nécessite jusqu'à 12 fois moins de nourriture et, attention, 2000 fois moins d'eau que celui du bœuf.
Ouais.
Quand on sait que les sources en eau sont fragilisées, c'est une donnée fort importante. De plus, la majorité de leur masse corporelle est comestible. Près de 80% pour un grillon, comparativement à seulement 40% pour une belle grosse vache. Ça fait drôle de dire ça.
Un grillon ou une vache? Qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir?
Légère différence, hein? Alors, mais il en faut pas mal de grillons pour équivaloir à une vache, vraisemblablement. Alors, cette efficacité en fait une option prometteuse pour réduire notre empreinte écologique sans compromettre nos besoins nutritionnels. En effet, sur le plan nutritionnel, les insectes sont loin d'être négligeables. Alors, ils contiennent entre 35 et 70% de protéines selon l'espèce, ainsi que des acides gras essentiels, du fer, du zinc et des vitamines du groupe B. Certains y voient même un choix crédible à la viande, notamment pour lutter contre la malnutrition ou optimiser les apports nutritionnels. Cependant, toutes les espèces ne se valent pas. Le verre de farine, par exemple, pas très invitant, hein, penser qu'on mange un verre de farine, mais enfin, offre une qualité protéique similaire à celle des légumineuses, mais demeure légèrement inférieure à celle du soya ou du bœuf. Le régime alimentaire et les conditions d'élevage modifient également leur teneur en protéines et surtout en lipides, notamment les oméga-3 et oméga-6 et micronutriments. Ce qui signifie que la composition nutritive peut fluctuer considérablement d'une espèce à l'autre, d'une méthode d'élevage à l'autre. Si les insectes sont consommés depuis des millénaires dans plusieurs cultures du Mexique à la Thaïlande, en passant par le Congo ou le Japon, leur intégration dans les systèmes alimentaires à plus grande échelle est relativement récente. Cela soulève des questions par ailleurs sur la salubrité et la réglementation de ces produits. Les risques microbiologiques constituent une préoccupation majeure. Comme tout aliment d'origine animale, les insectes peuvent être porteurs de bactéries pathogènes telles que le Salmonella spp ou E. coli. Néanmoins, selon un rapport de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ayant analysé 51 échantillons d'insectes comestibles vendus au pays, aucune contamination n'a été détectée. Ces résultats sont donc encourageants, mais les chercheurs soulignent que la prudence reste de mise, surtout en ce qui concerne la traçabilité et les conditions d'élevage. La question de la biodiversité mérite également une attention particulière. Si l'élevage contrôlé en milieu industriel présente des risques comparables à ceux des autres productions animales, la collecte ou la production à grande échelle pourrait, elle, avoir des répercussions sur les écosystèmes. Dans plusieurs régions du monde, la consommation d'insectes sauvages fait déjà partie des traditions alimentaires locales. Alors, une augmentation de la demande mondiale risquerait d'intensifier cette exploitation, mettant alors en péril certaines espèces et, bien sûr, les équilibres écologiques dont elles dépendent. L'équilibre, hein? Il faut toujours trouver l'équilibre. Ainsi, loin d'être une solution universelle, l'entomophagie s'impose comme une option complémentaire qui nécessite un encadrement rigoureux et une gestion durable des ressources. Comme toute innovation alimentaire, son développement devra s'accompagner d'une réflexion sur ses impacts à long terme, tant sur la biodiversité que sur les communautés qui en dépendent. Au-delà des aspects techniques et environnementaux, l'adoption des insectes dans nos assiettes pose aussi un défi culturel majeur. Dans de nombreux pays occidentaux, le simple fait de penser à manger un insecte provoque un réflexe de dégoût. Pourtant, plusieurs entreprises tentent de normaliser leur consommation en les intégrant dans des produits transformés. On pense aux barres protéinées, aux farines, aux burgers ou aux pâtes à base de poudre de grillon. Des études montrent qu'une exposition progressive sous forme familière peut aider à surmonter cette barrière psychologique. Manger des insectes pourrait ainsi devenir une habitude d'ici quelques décennies, surtout si les préoccupations environnementales continuent de s'accentuer. On a vu, Hélène, hein, la montée de consommation du tofu, par exemple, hein, qu'on trouvait tout à fait insipide, inodore, oui. Incolore.
Même quand les sushis sont arrivés, Monique, on se dit « Ah, je ne mangerai jamais ça, du poisson cru ».
Ben oui.
Et on en raffole aujourd'hui.
On en raffole. Combien de chaînes on a de sushis au Québec?
Il y en a plein, il y en a trop.
Oui, c'est ça, c'est impressionnant. Et le tofu, je pense que je lisais hier, il y a une augmentation de 12 % de consommation du tofu. Alors, on finit par adopter ces nouvelles pratiques alimentaires, si on peut dire. Alors, ainsi, les insectes comestibles, pardon. Faut que ce soit cosmétique, peut-être.
Pour nous attirer.
Ne sont pas qu'une curiosité culinaire ou une simple source de protéines alternatives. Ils s'inscrivent au cœur d'un débat plus vaste sur la durabilité de nos systèmes alimentaires. Leur potentiel interroge nos manières de produire, de consommer et de valoriser les aliments. Comment nourrir une population mondiale croissante sans aggraver les crises climatiques, épuiser les ressources naturelles ou multiplier les risques sanitaires? Ben, ici, au-delà de leur simple substitution nutritionnelle, ils nous amenaient à repenser nos modèles alimentaires tout en révélant les limites de notre quête de solutions rapides à des problèmes profondément structurels. Ben, cette réflexion rappelle que la transition vers des régimes durables exige davantage qu'un nouvel ingrédient. Elle appelle une transformation en profondeur de nos habitudes, de nos politiques et de nos priorités collectives. On pourrait appliquer cette réflexion, je pense, Hélène, à toute innovation. Hein? On pense aux véhicules électriques, aux batteries électriques, aux centres de données immenses. Enfin, il y a des réflexions en profondeur qui doivent se faire sur divers aspects de notre préoccupation à des pratiques plus durables.
Bien dit. Manger des insectes, solution d'avenir ou fausse bonne idée? C'est un texte que vous avez trouvé dans La Conversation.
Ce n'est que de l'eau.
Oui, belle reprise, Vanille, qui sera en spectacle, je vous le rappelle, ce soir à l'Escogriffe, qu'on appelle aussi l'Esco, dans le cadre du Taverne Tour, festival de musique indépendante qui se déroule à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 février. On y va avec les brèves en compagnie de Monique et d'Yvan. Yvan, patiner et danser aux abords du Saint-Laurent, belle idée.
Oui, c'est une expérience immersive qui allie le patinage libre, la musique et les jeux de lumière. C'est au parc Jean Drapeau à Montréal. Alors, le sentier des patineurs que plusieurs personnes connaissent déjà offre chaque hiver un très beau terrain de jeu pour les amateurs de patins. Mais avec le coucher du soleil, l'ambiance change. La piste se pare de couleurs et de rythmes signés par des DJ invités, transformant une sortie hivernale en un moment festif et visuel. Le sentier des patineurs, c'est un parcours de glace réfrigérée d'environ 457 mètres, entretenu régulièrement pour offrir une surface lisse, même quand la météo varie à cause du côté réfrigéré. En marge de l'activité Glisse and Groove, il permet de patiner en continu en profitant d'une vue sur le fleuve et le centre-ville de Montréal. Quand Glisse and Groove commence, les jeux de lumière colorées s'invitent sur la piste et autour du sentier à la tombée du jour. Les DJ mixent rythme la soirée, créant une atmosphère à la fois urbaine et conviviale, ce qui est idéal pour ceux qui veulent bouger en musique ou simplement profiter de l'ambiance en observant la scène. Alors, l'événement se déroule tout au long de la saison hivernale avec des rendez-vous musicaux programmés les samedis après-midi et soirs. La participation est gratuite et la location de patins est offerte sur place. Il y a des zones pour se réchauffer, prendre un chocolat chaud ou une collation. Il y a des toilettes accessibles autour de la patinoire et un pavillon d'information pour toute question pratique. Et bientôt, le 28 février prochain, le parc participera à la Nuit Blanche en prolongeant exceptionnellement l'ouverture du sentier des patineurs jusqu'à 1h du matin. C'est de l'information que j'ai trouvée sur le site espace.ca.
Wow, belle sortie. Merci, Yvan. Monique, l'ADN du Québec cartographié?
Oui, exactement. Alors, l'objectif de cette cartographie, c'est de brosser le premier portrait génétique global des Québécoises et Québécois au-delà de la seule population canadienne-française. De plus, cette cartographie des informations génétiques devient une riche ressource pour des études de génétique populationnelle et pour explorer les questions de génétique des maladies chroniques. Cette base de référence sera bien sûr précieuse pour la population québécoise et ainsi on espère qu'elle sera utilisée par tous les laboratoires au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Cette nouvelle référence génétique permet aussi de répondre à une question importante. Un variant génétique observé chez un patient est-il réellement pathogène ou simplement fréquent dans sa population d'origine? Le projet n'a pas seulement des implications cliniques, il ouvre aussi une fenêtre sur l'histoire démographique du Québec. Ces connaissances peuvent éventuellement orienter le dépistage ciblé en tenant compte de l'origine régionale des individus. La génétique devient alors un outil de prévention ancré dans le territoire. Carte à gènes. Je l'appelle, Hélène, C majuscule A majuscule R majuscule T majuscule A G majuscule E majuscule N majuscule E majuscule. C'est une plateforme qui met à l'avant-scène la génomique populationnelle du Québec. C'était, il y a 15 ans, un projet visionnaire. Le nouveau projet dont je vous parle de cartographie, ce projet aujourd'hui décrit de façon claire la diversité génétique de la population québécoise, mais dans un contexte multiculturalisme, ce qui n'était pas le cas de Cartagène au départ. Donc, une nouvelle base de données génétiques québécoise multiethnique vient d'être créée, donc grâce à la cohorte Carte à Gênes, la plus importante cohorte populationnelle du Québec, qui est hébergée au CHU Sainte-Justine et soutenue par Génome Québec. Alors voilà un très beau projet qui permettra en fait d'avoir une médecine de précision.
Épatant tout cela, merci. Le Salon du vélo approche, Yvan.
Oui, c'est la semaine prochaine du 20 au 22, mais j'y reviendrai parce que je vais vous faire un petit compte-rendu des activités aux Olympiques présentement.
Bonne idée.
Je me tourne la tête et l'équipe féminine au hockey mène 4-0 la Finlande.
Je suis contente.
Il reste un peu moins de 13 minutes à jouer en troisième période. Vous pouvez écouter l'émission de Hélène Denis à partir de 10h40 et regarder le match de hockey masculin du Canada aussi. C'était à 10h40 ce matin. Ensuite, les autres choses intéressantes, patinage de vitesse courte piste, c'est à 14h15 que ça commence chez les femmes. Le 500 mètres, il y a 3 possibilités de médaille là. Courte piste chez les hommes, le 1000 mètres, ça c'est à 14h28 que les quarts de finale commencent. Là aussi, il y a des possibilités de médailles importantes. Surf des neiges à 13h30, il y a une possibilité de médaille avec Elisabeth Hoskins. Et je fais le tour après ça, il y a du ski alpin, du patinage de vitesse longue piste. C'est une grosse journée aux Olympiques, alors préparez-vous peut-être des sandwichs et passez un bout de temps devant la télévision. Quoique maintenant, on peut regarder les comptes rendus puis les différentes propositions sur différents sites à l'heure qui nous sied bien. Alors, tout est possible. Mais oui. C'est une grosse journée pour le Canada.
Mais l'idée des sandwichs, j'achète aussi. Alors, oui. Le Salon du vélo, oui, vous avez donné les dates. On va pouvoir y revenir.
Oui, du 20 au 22 février, mais on pourra y revenir jeudi prochain.
Correct. Super. D'où vient le lion de la place Saint-Marc?
Peut-être que vous avez vu des photos, Hélène, de cet immense lion au-dessus d'une espèce de colonne, là. Alors, l'examen isotopique, ce qui veut dire des atomes, là, de 9 échantillons de cette sculpture symbolique de la ville de Venise, suggère que la composition du bronze correspond à des gisements de cuivre des provinces de Zhejiang ou d'Anhui, le long du fleuve Yangtze. Alors, la nouvelle analyse stylistique de la statue penche est aussi pour du fait en Chine, made in China. C'est peut-être le père de Marco Polo qui l'aurait importé au 13e siècle.
Oh, on en apprend tous les jours. C'est une nouvelle qui est parue, ça fait quand même un petit bout de temps, hein, dans la presse. En tout cas, moi, j'avais lu ça, là, c'est l'agence France-Presse qui avait écrit que l'hypothèse de ce dont vous venez de nous parler avait été publiée dans une étude, dans une revue Antiquité.
Ah oui, ben écoutez, moi j'ai pris ça dans Pop Science, dans la revue Epsilon de février 2026.
Bon, faites circuler les bonnes nouvelles.
Ça se recoupe, hein, Hélène, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave du tout. Et Yvan, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Parce que sinon, on va passer à la capsule linguistique.
Ben, allons-y à la capsule linguistique alors.
D'accord. Donc, la semaine passée, Monique, on réfléchissait sur le mot la falle à l'air, la falle basse, si vous avez fait de plus amples recherches.
Exactement. Alors, Hélène, c'est un petit héritage des Vikings.
Ah oui!
Des Vikings!
Des Vikings. Et les parlers normands l'ont intégré, en fait. Le mot phale peut s'écrire avec un L ou avec deux L. Et il désigne le jabot des oiseaux. Les parlers traditionnels normands ont donné aussi à ce mot différentes acceptions. Estomac des êtres humains, gorge, poitrine, plastron d'un vêtement. Cette expression, donc, avoir la phale à l'air, signifie aujourd'hui être largement décolleté. Quant à la locution avoir la phale basse, elle signifie d'abord avoir faim. Et ce sens est largement attesté dans tous les parlers français d'Amérique du Nord. Et par ailleurs, c'est avec le sens de être déprimé, ne pas avoir le moral, qu'il survit encore le mieux de nos jours. Alors voilà, j'espère que ça répond à votre question, Hélène.
Oui, ça répond très bien à ma question. Au-delà de mes attentes, Monique, vous êtes une excellente recherchiste. La phale, on l'écrit comment? F-A-L-E ou avec
oui,
deux L?
F-A-L-L-E, les deux.
OK, les deux. Ça oui. passe. Et je me disais, j'ai d'autres mots. Peut-être pour la semaine prochaine, Monique, mais vous en faites toujours ce que vous voulez. Hein. Je pensais à la mauvaise utilisation des mots support, surtout en ces temps olympiques, des Jeux olympiques.
Oui.
Oui, et aussi du mot température.
Oui.
Oui, OK. Bon, bien, c'est bien. Qu'est-ce que vous allez faire de cette journée-là? Est-ce que vous allez regarder beaucoup les Olympiques?
Moi, dans mon cas, je m'en vais jouer au pickleball ce midi.
Oui.
Puis je vais regarder probablement sur tout.tv ce que j'aurais manqué entre-temps. Je peux vous faire une autre mise à jour. C'est toujours 4-0 pour le Canada contre la Finlande et je n'ai pas vu Marie-Philippe Poulin sur la glace.
Non.
Qu'elle ne joue pas aujourd'hui.
On avait confirmé son absence, mais ça fait du bien 4-0 parce qu'elles se sont fait battre 5-0 là, tout récemment.
Oui.
Par les États-Unis.
Oui. C'est inquiétant, ça, un petit peu.
Bon, bien, il ne faut pas lâcher. Merci, Yvan. Merci beaucoup, Monique. Passez une très belle journée puis une joyeuse fin de semaine de la Saint-Valentin.
Oui, à la semaine prochaine.
Merci.
À la semaine prochaine. La chronique Parasport avec Dominique Tremblay s'en vient tout de suite après la pause. Soyez là.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et on retrouve avec plaisir notre chroniqueur Sport Parasport. Bonjour Dominique.
Bonjour Hélène, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va bien. Alors, on en parlait avec Yvan et Monique. Les Jeux olympiques sont bel et bien commencés. J'imagine que vous devez passer pas mal de temps devant vos écrans.
Évidemment, Hélène, à tous les 4 ans, j'attends les Jeux olympiques d'hiver, les Jeux paralympiques, évidemment, aussi ouais. d'hiver. J'aime mieux participer et aller aux Jeux d'été. Je suis pas un grand amateur de la froidure, on en a déjà parlé quelques fois, mais j'aime bien regarder les sports d'hiver sur mes écrans. Ça fait depuis Noël que je pense à ça. Là. Je me suis acheté un troisième écran. Donc, ma télé est toujours ouverte. Puis, j'ai deux écrans pour lesquels je peux travailler. Donc, je suis là presque 10 heures par jour à regarder les Jeux olympiques et travailler en même temps.
Un vrai passionné, un vrai journaliste.
Ouais,
Dominique, pour les athlètes paralympiques, est-ce qu'il y a un avantage à regarder les Jeux olympiques?
Évidemment, ça peut être intéressant. C'est en regardant à la télé ou sur son ordinateur les compétitions des Jeux olympiques, un athlète paralympique peut se mettre dans le bain de l'ambiance sur les sites de compétition à laquelle il va participer, puisque bon, les sites se ressemblent. Il y a aussi les parcours que les athlètes peuvent regarder et faire du visuel, de se mettre dans la tête, de faire de la psychologie sportive, de visualiser les les sites et puis se dire, ah, moi, dans 3 semaines, je vais être là, puis je vais me bien préparer, je vais connaître le parcours, ça va bien aller. Donc, c'est toujours une bonne chose de regarder les Olympiques. Ça nous donne une petite idée de comment ça va être nos propres expériences en tant que Paralympiens.
Et dites-nous, Dominique, est-ce qu'il y a beaucoup de sites olympiques qui vont être utilisés pour les Jeux paralympiques?
En fait, tous les sites des Jeux olympiques vont être utilisés pendant les Jeux paralympiques. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça, mais évidemment, pour sauver un peu d'argent, on n'a pas besoin de reconstruire d'autres sites de compétition. Aussi, ça permet de rendre accessibles des sites peut-être qui ne l'étaient pas dans le passé. Donc, ça aide tout le monde. Donc, le para-hockey sur glace va avoir lieu à le même endroit que le hockey sur glace féminin ou masculin aux Jeux olympiques. Et pour toutes les autres épreuves qui vont se dérouler à Cortina d'Ampezzo, il va avoir le para-ski alpin. En ski alpin, ils vont utiliser les parcours des femmes que les femmes ont utilisé lors des Jeux olympiques. On parle aussi du curling en fauteuil roulant, du parabiathlon et paraski de fond. Ils vont utiliser exactement les mêmes sites. Et la seule différence, c'est que le parasurf des neiges vont utiliser un parcours de surf des neiges qui existe à Cortina au lieu de le site de compétition pour le surf des neiges pour les Jeux olympiques était à un peu plus loin là, de Milan et de Cortina d'Ampezzo.
Bon, alors dans l'ensemble, ils utilisent les mêmes sites. Ils utilisent aussi les mêmes parcours?
Oui, ça va être exactement les mêmes parcours pour le ski de fond, par exemple, et le biathlon, exactement la même chose. En ski alpin, ça va avoir une petite différence, surtout en slalom et en slalom géant, parce que les portes dans lesquelles les athlètes doivent passer pour le parcours est peut-être un petit peu plus espacé au niveau paralympique, parce que techniquement, quand on skie sur un ski seulement ou deux, ou un handicap, c'est un peu plus compliqué. Donc, on élargit un petit peu les portes. Mais à part ça, ça va être exactement la même chose. La grosse différence, c'est que pour les Jeux paralympiques, ça va se dérouler au début du mois de mars. Présentement, à Cortina d'Ampezzo et autres sites de compétition, on a vraiment des belles températures d'hiver, à peu près moins 2, moins 5. Mais au mois de mars, ça va être plutôt des conditions de ski de printemps. Donc, les athlètes doivent ajuster leur ski en conséquence. Et ça peut être une carte qui va faire beaucoup de changements pour les Jeux paralympiques.
Et on rappelle que les Jeux paralympiques d'hiver auront lieu du 6 au 15 mars 2026. C'est bonne nouvelle. Dominique Tremblay sera avec nous tous les jours pour nous faire reportages.
Oui,
à partir.
C'est des bonnes nouvelles des compétitions.
Oui. Et donc, on vous retourne à vos écrans. Qu'est-ce que vous allez regarder, là?
Bien là, il y a les matchs féminins entre le Canada et la Finlande qui se terminent d'ici à peu près, il reste à peu près un petit peu plus qu'une période. Il y a évidemment le match de hockey masculin entre le Canada et la Tchéquie qui va commencer d'ici 20 minutes. Mais j'attends particulièrement le patinage de vitesse courte piste où on a des bonnes chances de médailles aux 500 mètres féminins et aux 1000 mètres masculins.
Bien, bon jeu, bonne journée, puis au plaisir de vous retrouver, Dominique. Merci.
Avec plaisir, merci. Au revoir.
Faut que je reste moi-même, je sais pas je suis qui, donc je fais semblant. Moins j'ai de réponses, plus je vieillis, évidemment. Je regarde dehors les gens qui s'aiment, ont l'air heureux. Moi plus je sais, plus je m'en éloigne, je sais ce que je veux. Je veux arrêter de penser à toi, ce serait mieux. Je veux oublier le son de ta voix, le creux des yeux. Je veux arrêter de penser à toi, ce serait mieux. Je veux oublier le son de ta voix, le creux des yeux. On s'aime comme des enfants, on fuit comme des animaux. Quand les raisons de rester s'effondrent comme des dominos.
J'aurais voulu qu'on dise en face ce qu'on dit dans le dos. Faut croire que c'est toi mon plus grand défaut. Faut que je reste moi-même, je sais pas je suis qui, donc je fais semblant. Moins j'ai de réponses, plus je vieillis, évidemment. Je regarde dehors les gens qui s'aiment ont l'air heureux. Moi plus je sais, plus je m'en éloigne, je sais ce que je veux. Je veux arrêter de penser à toi, ce serait mieux. Je veux oublier le son de ta voix, le creux de tes yeux. Je veux arrêter de penser à toi, ce serait mieux. Je veux oublier le son de ta voix, le creux de tes yeux. Je veux juste marcher de façon personne m'attend. On m'a dit que ces choses-là prenaient du temps. Donc j'attends.
La chanson « Je veux » de Freds.
Du 15 février, ça s'en vient très bientôt, jusqu'au 11 mai, la saison de la Coupe Charade va s'installer au MTELUS, ex-Métropolis, pour une deuxième année. Et ça me fait plaisir d'en parler, d'en reparler, puisque c'est maintenant presque une tradition pour la deuxième année, avec Simon Rousseau. Bonjour, Simon.
Bonjour, Hélène.
Simon Rousseau, qui est arbitre en chef et nouveau directeur artistique du Théâtre de la LNI. Vous, l'impro, là, vous en mangez depuis longtemps, là.
Oui, ça fait longtemps que ça a une bonne part dans mon assiette culturelle.
Oui. Ça a été quoi votre premier contact avec l'impro?
Mon premier contact, ça a été avec la soirée de l'impro qui était diffusée à l'époque sur les ondes de Radio-Québec.
Oui,
ça
oui.
Ne
oui.
rajeunit pas, mais ça a vraiment littéralement été ça. Ensuite, j'avais des cousines qui jouaient à l'école primaire. Ça commençait déjà à se répandre dans le milieu scolaire. Moi, je vais faire mon entrée relativement tardivement. Je vais pas jouer avant le cégep. Mais à partir du moment où je vais me mettre à toucher à ça, ça va être une grande piqûre. Puis là, je vais me dire comment est-ce que ça peut avoir une part plus grande dans ma vie. Et c'est ce qui va m'amener à avoir envie de devenir comédien. C'est l'improvisation qui va m'amener au théâtre et non l'inverse.
Oui, ça arrive... assez souvent.
Ça arrive assez fréquemment.
Ce genre de processus-là,
absolument.
Je pense à Claude Legault, entre autres.
Ah oui, à plusieurs personnes. Ouais. Mais maintenant, d'ailleurs, j'ai la chance d'enseigner au conservatoire,
oui.
L'école qui m'a formé. Puis je participe au processus donc, d'audition. Puis je vois qu'il y a toujours une bonne part quand même. On parle facilement, j'estime ça là, de manière grossière. Mm-hmm. J'aime ça mettre des chiffres sur mes intuitions. Donc, je dirais un 15% peut-être au moins des gens qui auditionnent, qui viennent avant tout de l'improvisation.
Ah oui. Est-ce que vous êtes capable de les détecter, ces gens-là, ces personnes-là?
Oui, souvent. Mais d'ailleurs, ils nous fournissent toujours un petit pédigree.
Oui.
Puis on le voit dans leur pédigree à quel point l'improvisation tient souvent une grande part de... Des fois, c'est même, ça prend des fois toute la place. Il y en a qui, comme moi à l'époque, n'ont jamais fait de théâtre avant d'auditionner.
Comment on enseigne l'improvisation?
Ça se fait, cela dit, et ça s'enseigne.
Ça s'improvise
pas. Ça s'improvise pas, non. Il y a même plusieurs notions, et ça s'enseigne dans toutes les grandes écoles de théâtre du Québec. Il n'y a pas un parcours,
ah,
que
oui.
ça soit à l'École nationale, que ce soit au Conservatoire de Québec. Partout dans toutes les écoles, ça fait partie de la formation de l'acteur.
Depuis longtemps?
Depuis toujours.
Ah, depuis toujours?
Ben non, depuis toujours, c'est un très grand mot parce qu'au départ, non, mais oui, je dirais depuis très longtemps, bien avant que moi je sois étudiant.
D'accord. Et vous aimez enseigner l'improvisation?
Oui, c'est extraordinaire, c'est extrêmement riche. On travaille le moment présent, on voit toujours, on peut pas s'ennuyer. C'est toujours nouveau ce qui nous apparaît en improvisation.
Est-ce que tous les comédiens et comédiennes sont doués pour improviser?
Ça dépend de la façon dont on le traite. Moi, si on enlève la bataille des idées, si on ramène ça vraiment à des rencontres de personnages Et d'intériorité, je dirais que oui, tous les acteurs sont là.
Ah oui? Parce qu'on entend quelquefois des acteurs dire « Moi, l'improvisation, c'est pas pour moi, ça me prend un texte, sinon je m'effondre. »
Ça, c'est vrai. Ça, c'est quand on prend l'improvisation puis on s'en sert plus comme outil pédagogique, mais qu'on en fait un spectacle.
Ah oui.
Comme on fait
quand
au théâtre de la Hélène.
Performance.
Là, oui, là, tout à coup, ça devient une représentation. Là, effectivement, c'est peut-être plus pour tout le monde.
Ouais.
Mais de l'utiliser comme un outil pur de jeu, là, ça, je pense que c'est très accessible.
Est-ce que vous improvisez toujours? Est-ce que vous en faites toujours? Vous ne faites pas partie d'une équipe là, cette année parce que vous êtes bien occupé par vos rôles d'arbitre en chef et de directeur artistique.
À partir du moment où je suis devenu arbitre, j'ai arrêté de jouer, mais j'ai continué d'évoluer dans d'autres ligues. J'ai joué pendant 25 ans à la LIM, la Ligue d'improvisation montréalaise, mais j'ai arrêté il y a 2 ans. Je continue de jouer principalement dans d'autres spectacles de la LNI parce que la LNI est surtout connue pour la saison de la Coupe Charade, qui est notre spectacle principal, mais on a aussi d'autres spectacles qu'on a créés. La LNI s'attaque aux classiques, l'usine de théâtre potentiel, Cygnus. Puis dans ces différents autres spectacles-là, je joue encore.
Ah, vous jouez encore. Vous avez encore la flamme,
ah, oui,
le feu sacré.
Je l'ai plus que jamais. Là, ça me manque même beaucoup.
Et pourquoi vous êtes devenu arbitre? C'est quoi le plaisir d'être arbitre à la LNI?
Ça, c'est une fichue bonne question.
Oui.
Ah, mon Dieu, je pensais pas nécessairement aller là parce que c'est quand même quelque chose de complexe. J'avais pris ma retraite comme... En fait, j'avais arrêté de jouer à la LNI à l'époque parce que j'avais atteint certaines limites. Je n'étais plus...
Toi, c'est vous là, qui vous disiez ça.
Ça, c'était moi. J'étais plus nécessairement satisfait par le jeu qui s'y pratiquait. 2 ans plus tard, alors que je suis à la retraite de la LNI et que je vis ma petite vie, chez moi, la LNI me contacte et me propose le rôle d'arbitre. Et là, je n'étais pas nécessairement intéressé du tout par le rôle d'arbitre.
Vous avez dit non tout de suite?
J'ai pas dit non tout de suite, mais je me suis dit... J'avais un désir de changer des choses fondamentales dans la façon dont l'improvisation était pratiquée à la LNI.
Qu'est-ce qui vous dérangeait? Qu'est-ce que vous vouliez changer?
Je trouvais qu'on perdait en théâtralité. Je trouvais que la partie, si on veut, de ping-pong, de tennis, je trouvais qu'on était vraiment, vraiment dans un art de la répartie où je trouvais que les personnages n'étaient plus aussi incarnés. Je trouvais qu'on était, d'une certaine façon, trop racoleur à mon goût avec le public.
Vous vouliez revenir à l'essence de la LNI.
Je voulais revenir à quelque chose d'une proposition beaucoup plus théâtrale, sans enlever le côté que c'est fascinant et que c'est drôle. Et que c'est
divertissant.
Oui, mais je trouvais que là, je trouvais que la « game » entre guillemets prenait trop de place sur le théâtre.
Bon,
et
alors...
Là, fait que là, donc, je prends ma retraite. Et là, on me propose d'être arbitre. Et là, j'ai fait... Comme arbitre, j'ai vu un moyen, une méthode pour peut-être plus arriver à mes fins, de faire des petites réformes, de changer les mentalités, de changer un peu la façon dont on pratique le jeu.
Mm-hmm, d'utiliser le gazou.
Exact, mais j'ai enlevé le gazou. Ça a été une de mes premières réformes, très contestée d'ailleurs, parce qu'entre autres, je trouvais que le gazou brisait l'immersion. Je trouvais qu'à partir du moment où on entendait le gazou, où on voyait l'arbitre se promener entre les improvisateurs. Je trouvais qu'on brisait le théâtre. Fait que moi, mon but, au contraire, c'est de faire... Je vais donner mes punitions, mais je vais les donner à la fin de l'improvisation. On va vivre ce moment-là de 3, 4, 18 minutes. On va le vivre comme une scène, comme un moment de théâtre complet. Puis après, si moi, je trouve qu'il y a des choses à corriger... Je le dirai.
Bon, alors, on sait qu'Yvan Ponton va faire son tour, revenir à titre d'arbitre.
Oui, il fait presque la moitié des matchs.
Est-ce qu'il revient avec son gazou?
Lui, il revient avec son gazou.
OK. Lui,
il a le droit. C'est Yvan Ponton, c'est une légende. Il a inventé le rôle. Il a le droit de tout faire.
Il a le droit de tout faire.
Je ne vais pas priver les gens de la chance de voir Yvan Ponton arbitrer. Puis Yvan arbitre à sa façon. On s'entend très, 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 très bien sur les fondements de... qu'est-ce que ce jeu-là doit être. Mais après, il y a sa façon de faire, j'ai ma façon de faire. Et Edith Cochrane, qui est la troisième arbitre, a aussi, d'une certaine façon, sa façon de faire. Fait un peu comme dans... On copie beaucoup le sport professionnel. Il n'y a pas un arbitre au baseball qui a exactement la même zone de prise. nous aussi, on a nos petites nuances, mais philosophiquement, on est à la même place.
Mais est-ce que vous diriez que depuis votre arrivée, parce que vous avez dit que vous avez choisi d'être arbitre en chef parce que vous trouviez que les improvisateurs choisissaient peut-être des coquetteries plus souvent?
Moi, je trouve que le jeu a changé. Je trouve que le jeu a changé beaucoup.
Mais est-ce qu'il a changé et s'est amélioré? Ou...
À mon sens, oui.
Oui.
Là, après, on pourra toujours...
En discuter.
On pourra toujours en discuter, puis il y aura sûrement des puristes qui s'ennuieront d'un... Mais moi, je trouve qu'ils s'ennuieront d'une certaine façon de faire, mais moi, je trouve que si on analyse...
Ah, j'avais l'impression que vous l'étiez puriste.
Pas tant.
Non.
Ça dépend. Je vis les deux. Ça veut dire que j'ai un extrême respect pour l'institution dans laquelle je m'inscris et je veux protéger le blason de la Hélénie. Mais en même temps, ça, ce qui veut dire que j'ai pas voulu changer trop de choses au niveau du cadre. On fait encore 3 périodes de 30 minutes.
Ouais.
On a encore un barillet. On fait pas de, on choisit pas les thèmes à l'avance à la LNI. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je suis resté, disons, traditionnel. Mais pour ce qui est de l'esprit du jeu,
vous êtes plutôt crémeux.
Je suis plutôt crémeux.
Alors, vous conciliez héritage et modernité, si on peut dire.
Oui, j'essaie.
Oui.
Mais d'une certaine façon, la théâtralité, pour moi, elle n'est pas nécessairement moderne. Pour moi, elle était là au départ.
Oui.
Fait qu'au contraire, d'une certaine façon, j'ai voulu lui redonner de la place.
Oui. La LNI qui va célébrer l'an prochain, en 2027, son 50e anniversaire de création?
Oui, en octobre prochain. Le 21, ça va être le 50e anniversaire du match.
En octobre prochain, donc 2026?
2027.
OK, 2027.
2027.
Oui, oui.
Ce qui fait que là, on va célébrer le 50e du match et l'année, notre année suivante, nous qui commence en février, là, on va célébrer le 50e anniversaire du match d'impro en faisant une saison bonifiée. On veut faire plus de spectacles, on veut faire une tournée à travers le Québec.
Ah, ouais.
C'est toutes des choses qu'on souhaite, là. C'est des projets, mais on aimerait beaucoup créer une tournée avec des joueurs de toutes les générations, de toutes les époques.
Ça serait super, ça. Ouais. Puis qu'on vous voit aussi à la télévision.
Ah, on le souhaite, mais c'est difficile, la télévision, en ce moment. Mais
ouais.
on travaille fort pour avoir une présence.
Bon, on le souhaite, nous aussi.
Ouais.
Vous êtes ici pour nous parler, entre autres choses, de la Coupe Charade qui commence le 15 février. C'est quoi exactement la Coupe Charade?
La Coupe Charade, c'est l'appellation, c'est la fameuse saison. La LNI, depuis au départ, c'était même notre seule, c'est la première production qu'on a fait. C'est donc... La saison, c'est les équipes, les fameuses équipes avec des couleurs.
Ouais.
Là, on en a 6. Ça a varié à travers les âges. Des fois, il y a eu 4 équipes. Des fois, il y en a eu 5. Là,
les bleus, les jaunes, les oranges, les rouges, les verts et les violets.
Exact. Fait que c'est ces 6 équipes-là qui s'affrontent durant un calendrier régulier. Puis, à la suite de ça, les équipes qui se classent le mieux selon leurs résultats vont participer aux éliminatoires. Puis, ça va culminer avec une finale et il y aura une équipe qui sera consacrée championne. Et quand on remporte, et ça, c'est le même depuis les tout débuts, quand on remporte le championnat de la LNI, on gagne la Coupe Charade. C'est pour ça que ça s'appelle...
Elle ressemble à quoi, la Coupe Charade?
Elle ressemble un petit peu quand même... au trophée de la Ligue des champions, c'est une grande, grande coupe avec 2 grandes anses de chaque côté, argent, brillante. Elle est quand même lourde.
Oui. Alors, est-ce que vous sentez que les équipes sont très compétitives, la veulent, cette coupe-là?
Oui, mais on a un très, très, très bel effectif. On a le même effectif que l'an dernier, qui a été une très belle saison, très relevée. Le seul changement, c'est un retour. On a Ève Landry qui revient comme joueuse. Alors, pour moi, ça laisse présager une très, très belle saison.
Qui est une excellente improvisatrice, Ève Landry.
Ah oui, exceptionnelle.
Et Vincent Bolduc aussi?
Vincent Bolduc revient comme entraîneur.
Entraîneur.
Oui.
Alors, ce sont des belles retrouvailles, j'imagine.
Absolument. Et on a aussi une belle première. Il va avoir Mélanie Ménard à l'animation cette année.
Oui, et Anaïs Favron. Qui s'ajoute, qui est deux improvisatrices, ces deux-là.
C'est deux improvisatrices, deux animatrices aussi de renom. On est choyés.
Et Yvan Ponton, donc, qui poursuit l'aventure.
Absolument, ça, c'est extraordinaire.
Il a 80 ans, je pense, Yvan Ponton.
Il ne les fait pas, si
absolument
c'est le cas. Là, je veux dire,
pas.
Ça me fait encore mal à chaque fois que je donne la main. Puis, au début, on s'inquiétait parce que souvent, il patrouille sur le bord de la scène et la scène est très haute au Métropolis, au MTLUS. Puis, on lui a fait remarquer, « As-tu besoin, Yvan, qu'on... » Puis il m'a dit, « Non, 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 j'ai mes marques.
» je connais, oui. Je connais ma place, je connais mes aides. Ouais. Ouais. Et même si c'est quand même nouveau au MTLUS, là, ce déménagement a été fructueux.
Absolument, c'est une salle magnifique. Ça nous permet de rejoindre encore plus de spectateurs. Puis on a un gigantesque écran qui nous permet de faire des projections. Moi, je trouve que... C'est un très bel accomplissement pour la Hélénie qu'on ait l'opportunité de jouer dans cette salle-là.
Et j'étais curieuse de savoir quelle est la moyenne d'âge des gens qui sont dans la salle.
C'est très varié.
Oui.
Je pense que c'est la force de la Hélénie. On surutilise un peu le fameux 7 à 77 ans. Mm-hmm. Mais souvent, les gens qui viennent sont surpris à quel point le public est jeune. Les jeunes aiment l'improvisation. Les jeunes ont toujours été intéressés par...
Parce qu'il s'en fait dans les écoles aussi.
Parce qu'il s'en fait dans les écoles, puis parce qu'il reste, en termes de propos, il n'y a rien de plus actuel que la Hélénie. On peut parler de quelque chose qui est en train de se produire actuellement dans la société. On est capable d'en parler le lendemain. On n'a pas besoin d'écrire un scénario, se faire approuver. Il y a quelque chose de très direct dans la possibilité d'être un écho de la réalité.
Wow, vous êtes un bon, j'allais dire un bon vendeur. C'est pas de la vente ici, là. C'est parce que vous croyez en votre produit, mais il y aura aussi une nouvelle intronisation au Temple de la Renommée qui est prévue cette saison.
Oui.
Bon, est-ce qu'on peut en savoir plus?
Pour l'instant, on garde un aura de mystère. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ça fait très longtemps qu'on n'a pas intronisé personne dans le Temple de la Renommée.
Pourquoi? Il n'y a personne qui valait la peine.
Non, je vous dirais qu'il y a eu une époque où ils ont intronisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs et joueuses. À un point tel que je dirais qu'on a un peu épuisé la ressource.
Ouais.
On a senti le besoin de prendre une petite pause là-dessus. Mais là, il y a des gens qui ont absolument besoin d'être intronisés.
Qui mérite d'être intronisé?
Ben là, je veux
sans pas... nommer personne, là, mais pourquoi on intronise telle personne plutôt que telle autre?
J'ai un grand amour pour toute personne qui s'est prêtée au jeu de l'improvisation dans le cadre de la Hélénie, mais il y a quand même certaines personnes qui ont été plus marquantes, plus influentes de par leur durée, de par l'impact fondamental qu'ils ont eu sur cette discipline qui est l'improvisation théâtrale.
Est-ce que vous faites partie de ceux et celles qui décident de qui sera intronisé?
J'ai cette chance de faire partie du... cercle des initiés, si je puis dire. Mais j'aime toujours m'entourer de gens. J'aime beaucoup aller chercher conseil avant de prendre des décisions.
C'est une bonne chose, ça. Alors, lni.ca/coupe-charade pour avoir toutes les dates, toutes les informations. Oui. On rappelle que ça commence dimanche 15 février à 14 h, les bleus contre les violets, et le lundi 16 février à 19 h, les rouges contre les verts. Ça continue comme ça jusqu'au 11 mai. J'en parlais avec le passionné et passionnant Simon Rousseau, arbitre en chef et nouveau directeur artistique du théâtre de la LNI. Merci, Simon. Bonne saison.
Merci beaucoup.
J'étais en train de fendre du bois dans le garage. Après quelques longs détours, ça m'aide à passer la rage. Je puis parler d'amour. J'suis fatigué de faire mes bagages, puis j'haïs les grands discours. J'étais carré de dire je déménage, j'fais un fuck you à l'amour. Puis j'm'en vais dans le bois. J'sais pas ce qui m'attend. Pas grand monde dans les alentours, c'est correct, j'suis un peu sauvage. Pas grand chance qu'on me fasse la cour, je vis pas sur un nuage. Je peux bien broyer en plein jour. We'll be right back.
j'atteins mon tour. Puis je m'en vais. J'avais rien qu'à faire un plan. Faut croire que j'en ai fait un. Et je l'ai reçu d'un.
Sarah Dufour, je m'en vais dans le bois.
Ben oui, c'est un beau projet, ça. Je ne sais pas où je vais aller, mais en tout cas, je m'en vais. L'émission est terminée. Ça a passé vite. Mathieu, vous, est-ce que vous en allez dans le bois en fin de semaine?
Non.
Non, il n'y a pas question d'aller dans le bois.
Non.
Une autre fois. Alors, Tchéquie 0, Canada 0, première période en direct. Elliot Grondin s'offre la médaille d'argent, ça je vous l'ai dit. Michael Kunzberry remporte l'argent. Les Jeux olympiques se poursuivent encore quelques jours. Il reste 10 jours. Ça va se terminer le 22. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve mardi. C'est Denis Martin-Chabot qui sera avec vous avec un beau menu lundi. Au plaisir.